Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Squarespace et du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2012 et c'est l'épisode numéro 92. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets et où on essaye de rendre ça compréhensible pour le commun des mortels, ce qui n'est pas toujours une tâche aisée, mais on s'y emploie tout de même. Et aujourd'hui, on va avoir un sujet particulièrement compliqué à démêler, à savoir la saga de l'été, le procès Apple contre Samsung. On va aussi parler d'autres choses, bien sûr, mais avant de se lancer, je dois saluer mon camarade de longue date, Jeff, qui est présent dans cet épisode. Comment vas-tu, Jeff ?
Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes en différé, puisque Patrick ne l'a pas encore dit, mais on a quelques petits problèmes techniques qui fait qu'on n'est pas en live pour une fois. Malheureusement, c'est juste nous deux.
J'avais tout préparé en plus, le PC, le Mac et tout. Et j'ai mis à jour sous la dernière version de l'OS Mac Mountain Lion il y a 3 jours. Et j'ai tout testé, tous les logiciels, machin, sauf un qui me permet de rediriger le son là où il faut pour diffuser le son sur le live de Ustream qu'on fait d'habitude. Et ce logiciel fait pose beaucoup de problèmes au nouvel OS, puisque j'ai eu 2 kernels paniques de suite, l'équivalent des blue screen of death, sur le Mac. Et donc je pense que ce logiciel spécifiquement a un petit problème. J'avais tout préparé en plus, j'avais testé tous les trucs, juste celui-là qui marche depuis toujours. Et évidemment, ce qui devait arriver
T'as pas lu la doc, comme d'habitude, t'as pas regardé, t'as pas vu que, ah, malheureusement, c'est le seul OS, c'est le seul logiciel qui a pas été mis à jour avec ce nouvel OS, qui autrement marche pas mal. Hein. Moi, j'ai mis à jour 4 ou 5 Mac sur ce week-end, et en fait, j'ai juste eu un tout petit problème une fois avec Acrobat Reader, et une de mes collègues a dû réinstaller Mountain Lion une deuxième fois parce que Evernote ne fonctionnait pas, et c'était le seul workaround, c'est réinstalle au-dessus de l'installation, ça marche mieux. Bon, ouais. Ok.
Mais moi non plus. Hein. Enfin, je veux dire, la plupart des gens semblent avoir des expériences plutôt positives avec le Bestio, sauf moi, juste au moment du live. Donc, on a une chatroom là que je vois, hein, à laquelle je peux m'adresser par écrit, qui est toute déçue et qui me souhaite bon courage tout de même et bonne chance. Merci à tous. Je vois Marty668, Mr. Burns8, Lionel G qui est là aussi. Enfin bon. Et donc, ils sont là, frustrés, et moi aussi. Donc, bref,
désolé.
Oui, vraiment. Mais j'espère que je pourrai réparer ça pour les prochains. Dans tous les cas, en attendant, on a donc quelques sujets plutôt intéressants à traiter. Google qui rachète Sparrow, une controverse à propos de Skype racheté par Microsoft qui l'a rendu super méchant parce que maintenant on peut écouter vos appels si on est la police. Et bien sûr, le gros sujet qui est le procès Apple contre Samsung. Je change un tout petit peu la formule à partir de maintenant du rendez-vous tech, c'est-à-dire qu'on va avoir en première partie 3 infos à retenir, on va se limiter à 3 qu'on va discuter un petit peu, et dans la deuxième partie, les news et rumeurs comme on les a toujours eu, mais je pense que ça nous aidera à structurer un petit peu l'émission, d'avoir vraiment les 3 infos les plus importantes, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'aime bien être assez exhaustif dans ce que je fais, et je me mettais à inclure de plus en plus d'infos dans les infos principales, et finalement il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont intéressantes pour tout le monde. Donc si je me limite à 3, je pense que c'est suffisant pour aller dans le fond des choses et rester quand même assez didactique, comme on essaye toujours de le faire dans cette émission, et rester donc intéressant. On en sélectionne 3, on se limite à 3. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Si ça fonctionne pas bien, on pourra toujours changer plus tard. Et donc, le premier sujet, c'est le rachat de Sparrow par Google. Vous ne connaissez peut-être pas Sparrow si vous n'êtes pas utilisateur de produits Apple, mais c'est une société qui est, on peut faire un petit cocorico, elle est basée à Paris, qui est extrêmement populaire, qui crée des clients pour Gmail, des clients natifs pour Gmail sous Mac et sous iOS. C'est-à-dire que c'est des applications spécifiques, principalement pour Gmail, hein, on peut l'utiliser avec d'autres clients de mail, avec d'autres logiciels de mail, d'autres systèmes de mail, mais c'est vraiment bien fait pour Gmail en particulier. Et Google les a achetés et ils ont annoncé que suite à ce rachat, bien sûr, les clients Sparrow ne seraient plus mis à jour, que la version iPad a priori ne sortira pas, il y a qu'une version iPhone, que certaines fonctionnalités de la version iPhone ne sortiraient pas, et que le client Mac ne serait plus mis à jour non plus. Évidemment, à ton avis, Jeff, combien de temps avant le rachat par Google ai-je acheté Sparrow sur Mac?
Oh, une petite semaine, 3 jours.
Exactement. Une semaine avant, j'ai acheté le client et je le connais depuis des mois, hein, et tout le monde en dit énormément de bien. Je me disais, ouais, bon, sur le web quand même, Gmail c'est bien, je m'en sers tout le temps comme ça, ça marche. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va se lancer, on va tester, on va voir ce que ça donne. Je me suis pas ruiné non plus, c'était 4 euros, je crois. Ouais. Je m'en remettrai. Mais c'était quand même un tout petit peu frustrant.
Bien, merci Patrick de ton soutien à la Valo de Sparrow dans son acquisition, sachant que bon, je pense qu'on peut effectivement célébrer un petit peu l'acquisition parce que c'est une boîte française et c'est pas tous les jours qu'une boîte française se fait racheter par Google. Bon, c'était quand le service ne survit pas, ça veut dire que c'était une acquisition pour le talent. Ouais. Et c'est effectivement ce que j'ai entendu. Moi, j'utilisais pas Sparrow, mais j'avais vu passer Sparrow en tant que société qui levait des fonds à l'époque. Bon, c'était sympa, les mecs étaient bons, mais on a en fait cette vision que malheureusement, lorsque tu développes des choses clés dans le monde de l'email, c'est très rare que tu passes en fait au stade post premier tour de financement, parce que très très rapidement tu vas être racheté. C'était le cas de Remail, c'était le cas de Sparrow, c'était le cas de pas mal de boîtes, et donc en fait c'est un domaine dans lequel nous on n'investit pas. On leur souhaite bonne chance à l'intérieur de Google et espérons qu'ils feront des belles choses pour l'interface de Gmail.
Oui, bah c'est justement. Alors il y a disons deux éléments de leçons à tirer de cette acquisition. Il y a d'une part le fait que, enfin, il y a une sorte de controverse qui a soulevé Internet à ce rachat parce que beaucoup de gens qui avaient entre guillemets investi dans Sparrow, et là je parle pas des vrais investisseurs mais des gens qui avaient acheté le logiciel, donc ces gens-là se sont plaints du fait qu'il n'y aurait plus de mise à jour, ce qu'on peut comprendre sur la surface, mais bon, quand même, faut pas exagérer, c'est genre 1,59€ sur iPhone, 3€ ou 4€, peut-être un petit peu plus sur Mac. Vous avez acheté un logiciel qui fonctionne, le fait qu'il ne se soit plus mis à jour, moi c'est pas un argument qui m'a arraché une larme, on va dire. Donc, bon, c'était une des controverses qui a vraiment fait couler pas mal d'encre, hein, et que, voilà, moi, je comprends pourquoi on pourrait dire ce genre de choses, mais je souscris pas tout à fait. D'autres personnes ont dit, Google est, enfin, ce genre de rachat, ce genre d'acquisition tue le développement indépendant. Là non plus, bon, je sais pas ce que t'en penses, Jeff, mais il me semble pas que ce genre de choses tue le développement indépendant, peut-être même au contraire.
Bah, je dirais que il y a les deux côtés que tu peux discuter, mais in fine, est-ce que Sparrow avait les moyens de continuer à développer le produit, sachant que bah à 4€, $5 la licence, il faut en vendre des millions et des millions pour réussir à monter une boîte intéressante. Je pense que il y avait éventuellement un intérêt de certains VC de mettre un peu d'argent, mais ils n'avaient pas prouvé qu'ils avaient la possibilité de monter, tu vois, à 50, 100 millions de dollars de revenus. Et donc, in fine, que le talent soit intéressant à Google et qu'ils le rachètent, ça veut dire que bah, pour les fondateurs, pour les équipes, ils vont avoir une expérience au sein de Google. Hein, ça va leur permettre d'avoir un sens de ce que ça veut dire de travailler à un niveau à la Google avec des centaines de millions d'utilisateurs. Et espérons-le, ça leur donnera en fait une meilleure vision de comment faire une deuxième start-up qui, elle, aura plus d'ambition peut-être que Sparrow. Donc je vois pas pourquoi c'est ça tue le ouais, l'indépendant, bah. sachant que de toute façon, in fine, tu as besoin d'être financé si jamais tu n'es pas cash flow break-even. Donc je pense pas que ce soit un vrai argument.
Mais surtout qu'il y avait une sorte... C'est surtout ça qui m'a choqué, en fait, il y avait une sorte de rancœur à l'égard des développeurs qui était... pas vraiment justifié. Moi, je pense qu'il faut être content pour eux plutôt, tu vois. Il y avait beaucoup de gens qui se sentaient trahis. C'est un peu ça. Il y a un sentiment de trahison parce que Gmail faisait... Enfin, pardon, Sparrow faisait ce que Google n'arrivait pas ou ne voulait pas faire avec Gmail, c'est-à-dire développer un client natif, non pas juste une page web, mais un vrai programme sur un ordinateur ou un téléphone pour son système de mail. Et donc les gens qui plaçaient leurs espoirs dans Sparrow pour ce type de logiciel se sont sentis un peu trahis. Moi, l'autre chose que je retiens de cette acquisition, c'est que j'ai l'impression que mine de rien, Google est en train de comprendre que tout sur le web tout le temps n'est pas forcément la réponse ultime dans tous les cas de figure. On a remarqué qu'ils se sont beaucoup intéressés à l'expérience utilisateur avec Android 5.1 pour lequel ils avaient présenté leur Project Butter pour fluidifier énormément l'interface. Donc ça, c'est vraiment une question d'expérience utilisateur. Et là, je me dis, s'ils acquièrent un talent comme celui-là, c'est sans doute, je l'espère en tout cas, pour commencer à développer pour certains de leurs services des applications natives de grande qualité. On a vu que Google Plus avait été mis à jour aussi sur iOS et sur Android avec des clients natifs qui étaient de meilleure qualité que ce qu'on avait vu au début. Donc, est-ce que Google commence à comprendre que les applications natives ont aussi un sens dans certains cas de figure ? Moi, je l'espère et ça sera positif pour tout le monde au final.
Oui, je pense que... In fine, ils ont quand même essayé d'améliorer l'interface de Gmail, la partie offline depuis des années, et c'est le bread and butter, comme on dit, c'est là où se trouvent la plupart des utilisateurs. Personnellement, j'utilise toujours mon client natif sur le Mac avec mon compte Gmail derrière, et ça me va très très bien. Donc je pense que là, le marché, c'est un peu la façon dont je raisonne, c'est quel est le marché potentiel pour une application email de nouvelle génération, étant donné que c'est difficile pour les gens de changer d'interface et de rompre leurs habitudes. Et c'est là que la conclusion, ça a été qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. Et même au niveau email, l'iPhone ou sur Android où c'est pas génial, des clients un peu plus intéressants n'ont jamais réussi à atteindre des millions de downloads, quoi.
Donc, non, c'est sûr, mais voilà. Si Google développe le sien justement, là ça pourra lui surtout que bon, tout le monde le sait, tout le monde le dit, la mobilité est en train de devenir la plateforme la plus importante en informatique. Si Google se met à sortir des applications Gmail et peut-être d'autres de bonne qualité, des applications natives et non pas des pages web ou des pages web dans une application comme on en a vu certains. Bon, moi je pense que ça peut être disons que même au-delà du fait que ça soit quelque chose d'intéressant, j'ai même l'impression que c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Parce que les clients en HTML5, hein, c'est de ça qu'on parle, les clients web ne suffisent pas en mobilité. Mais bon,
je suis d'accord.
On aura sans doute la réponse. Oui, pardon. Vas-y.
Et puis aujourd'hui, c'est trop lent. C'est-à-dire que la technologie in fine sera là dans quelques années, mais on voit aujourd'hui avec l'application Facebook qui est du HTML5 wrappé dans une application, c'est pas ça. Hein. C'est lent comme je sais pas quoi. Et ça se demandait en fait pourquoi Facebook n'a pas amélioré ça, parce que c'est pas qu'il manque de ressources. Hein, avec les 16 milliards qu'ils ont récupérés dans leur IPO, ils pourraient coller 3 gus pour développer une application digne de ce nom, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah, c'est un petit peu cet échec, c'est un peu l'échec qu'on avait annoncé de Chrome OS de Google, qui était juste une page web. Faire un ordinateur avec juste un navigateur, on n'y est pas encore. C'est comme si Gmail était sorti, enfin les interfaces web pour le mail étaient arrivées dès, je sais pas, 1999. C'était trop tôt, la connectivité n'était pas encore là. Dans 5 ou 10 ans, quand on aura tous de la 4G ou 5G partout, peut-être que ça sera possible, c'est même probable, mais on n'y est pas encore. Deuxième controverse du jour, la question de Skype et de l'interception possible des appels de Skype. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les différentes évolutions de Skype, il y avait une des choses qui était assez importante pour ce logiciel, c'est que il était on pensait qu'il était impossible pour les autorités d'écouter les appels passés par Skype. Alors, c'est pas juste pour que vous puissiez avoir une conversation privée avec votre chérie ou que vous fassiez passer des informations discrètement à vos amis pirates, mais c'est aussi, bien sûr, très utile pour des gens qui ont qui cherchent à fomenter des révolutions dans des pays dictatoriaux, ou enfin bon, des révolutionnaires, des activistes, ce genre de choses, des gens pour qui ça pourrait véritablement être un problème d'intégrité physique de voir leurs appels écoutés par les autorités. Et aujourd'hui, donc, avec le rachat de Skype par Microsoft, on s'est penché un petit peu plus sérieusement sur la question de cette possible interception par les autorités, surtout que depuis les dernières versions, certaines personnes ont essayé d'avoir une réponse claire de la part de Skype, et Skype ne veut pas répondre clairement, en fait. Ils tournent autour du pot, ils disent peut-être oui, enfin, même pas, ils répondent pas clairement. Et donc, on s'est rendu compte que alors, certaines personnes ont dit, voilà, c'est Microsoft qui les a rachetés, maintenant, ils vont faire en sorte qu'on puisse écouter, c'est le grand Satan, et ça ne me surprend pas, ça ne surprend personne, c'est normal, c'est dégueulasse. Ok ? Sauf que, en observant la chose un petit peu plus précisément, on se rend compte que si les appels de Skype, ce qu'ils ont toujours dit hein, depuis des années, les appels sont encryptés, donc impossible à décrypter pour quelqu'un qui n'a pas la clé, eux, chez Skype, ils ont cette clé et elle n'est pas suffisamment secrète, entre guillemets, pour qu'il n'y ait pas accès. Je rentre pas dans les détails techniques, également parce que je les comprends pas complètement, la cryptographie c'est quelque chose de très compliqué, mais ce qu'il en ressort, c'est que a priori Skype avait très habilement présenté les choses de manière à ce que on comprenne, si on ne va pas chercher le bout du bout, on comprenne que les appels étaient encryptés, mais qu'on ne comprenne pas qu'ils étaient possiblement décryptables. Donc, il est très possible, ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que, en fait, les appels Skype n'ont jamais été totalement 100% sûrs. Et aujourd'hui, ils ne sont, a priori, pas plus ou moins sûrs qu'ils ne l'étaient avant, mais que, effectivement, ça peut poser des problèmes pour des gens qui ne veulent vraiment pas se faire écouter. Bien sûr, comme je le disais, c'est pas vous qui allez parler de choses cochonnes avec votre copine ou avec quelqu'un d'autre qu'on va aller chercher là-dedans. On parle évidemment beaucoup plus de problèmes que ça pourrait poser à des activistes dans des pays, dans des dictatures, même si les dictatures commencent à se faire plus rares, pour qui ça pourrait poser problème. Donc il y a eu un gros débat sur le web, qui était, à mon sens, comme souvent avec les débats sur le web, qui n'allait pas assez au fond des faits et se basait sur des impressions et des oui-dire pour porter des jugements. Donc bon. Au-delà de ça, la question de Skype n'est pas totalement résolue, mais t'as un avis, toi, sur la chose, Jeff ? Est-ce qu'il faudrait que Skype rende les choses totalement inaccessibles aux autorités ? Ou est-ce que c'est normal qu'ils donnent les clés quand on les leur demande ?
Bah, je pense que comme la plupart des service providers, à un moment ou à un autre, il faut qu'ils déterminent comment ils répondent aux injonctions de la loi. Sachant que récemment Twitter a encore défendu un de leurs abonnés contre un juge qui voulait avoir accès à son compte Twitter. Mmh. Je pense qu'il est nécessaire que, un, ce soit extrêmement clair pour les usagers, c'est-à-dire qu'on sache que si jamais on utilise le compte Skype, parce qu'aujourd'hui, la question sur laquelle on va se défendre, oui, ils vont se défendre, c'est, imagine que les terroristes utilisent Skype, on a besoin de pouvoir accéder à leur compte pour savoir de quoi ils parlent. Et c'est une question de sécurité nationale, Et donc, et les Américains, ils font passer pas mal de choses sur le dos de la sécurité nationale.
Ouais, c'est sûr.
Et donc, à partir du moment où tu sais exactement à quoi t'en tenir et que les autorités compétentes peuvent demander à accéder à notre conversation, celle que nous avons en ce moment, c'est à ta décision en tant qu'utilisateur, est-ce que tu vas continuer à utiliser Skype ou pas, sachant que de toute manière, quel que soit le service téléphonique que tu utilises, tu seras sujet aux mêmes limitations ou à la même au même accès. Donc
c'est ça ce qu'il faut.
De là ce que en gros, tu parles de normaliser les accès des autorités. Et j'avoue que ça me choque pas plus que ça, quoi. Mais il faut que ce soit clair.
C'est ça. Et puis surtout, une chose qu'il faut effectivement, sur laquelle il faut être clair, c'est que le fait que ça soit accessible ne veut pas dire qu'ils vont systématiquement y donner accès. Il y a ensuite une procédure légale. Et je pense que c'est ça qui est important dans ce genre de débat. Il faut que la procédure légale soit respectée. Et à partir du moment où la procédure légale est respectée, dans un sens ou dans l'autre, les choses vont bien. Ensuite, si on n'est pas d'accord avec la procédure légale, c'est pas à Skype qu'il faut s'en prendre, c'est non. À la procédure légale. Mm-hmm. Donc, je pense qu'effectivement, sur ce point, on est d'accord.
Puis, de toute manière, pour être cynique, quand tu sais tous les systèmes que les contre-espions, les différentes organisations de contre-espionnage des différents pays ont mis en place pour essayer d'écouter tout ce qu'on raconte, je veux dire, ça me fait bien rire, hein, faut pas exagérer.
Oh mais Skype, il y avait c'était peut-être une idée fausse, mais il y avait cette idée que tout le monde, personne ne pouvait y accéder.
Mm-hmm.
Donc, bon. En tout cas, on aura peut-être d'autres informations sur ce sujet bientôt, parce que l'histoire est encore en cours d'évolution. Mais bon, c'est sans doute pas Microsoft qui a. Peut-être que Microsoft fait en sorte que les choses soient plus claires aussi. Et il est évident que quand on est Microsoft, on a plus besoin d'être en accord avec la loi que quand on est juste Skype dans son coin. C'est possible.
Mm-hmm.
Surtout quand Skype s'intègre à Office, comme c'est le cas avec les dernières versions, les prochaines versions plutôt. Et donc, on arrive au gros morceau de la soirée, la saga de l'été. Comme j'aime l'appeler, le procès, et qui dure en fait depuis bien plus longtemps que cet été, le procès Apple contre Samsung. Alors avant de nous lancer dans le sujet, je vais faire une petite introduction pour dire que, alors plusieurs choses. D'une part, aucun d'entre nous deux n'est un avocat. Ce procès est extrêmement compliqué. Il y a plusieurs procès même dans différents pays, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Australie, peut-être ailleurs. Donc, si jamais on fait des erreurs, j'espère que vous serez indulgents, parce que c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Ceci dit, vous savez que il y a deux choses que j'essaye de ne pas trop parler quand c'est pas approprié dans mes émissions, c'est les rumeurs et en particulier les rumeurs sur les prochains iPhone et iPad. On parle une fois de temps en temps quand c'est des choses qui sont vraiment intéressantes ou avérées. Et d'autre part, c'est les procès, parce que les procès, il y en a tellement tout le temps et en particulier les procès sur les brevets que si on en parlait à chaque fois qu'il y a quelques articles dans la presse, vous y aurez droit, ça constituerait la moitié de toutes les émissions. Donc j'ai soigneusement évité le Apple contre Samsung pendant des mois, je pourrais dire. Mais là, les choses deviennent tellement, culminent tellement que je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire le point. Et je me suis payé une bonne dizaine d'articles assez complexes pendant la semaine pour essayer de démêler ce que font chacun, le pourquoi, du comment, ce que voudraient les uns, ce que voudraient les autres. Et évidemment, donc j'ai passé une bonne semaine à faire ça pour vous présenter un rapport précis et simple. Et évidemment, aujourd'hui, c'est vraiment pas ma semaine, hein, entre le Mac qui plante, Sparrow qui se fait racheter et je sais pas quoi. Aujourd'hui, The Verge, qui est un excellent site sur la tech, a posté un article qui reprend et qui résume 90% des informations que j'avais passé la semaine à décortiquer et qui le fait très très bien. Donc je mettrai un lien vers cet article dans les notes de l'émission. Si vous voulez le lire, vous aurez une bonne partie des informations dont je vais vous parler. Mais je vais quand même faire le résumé à l'oral parce que bon, je l'ai pas fait pour rien. Donc, commençons par Samsung, si vous le voulez bien. Que veut Samsung? Il faut savoir que c'est Apple qui a commencé les hostilités légales. Hein. Mais commençons par Samsung. Samsung voudrait prouver devant... si je me trompe pas, le procès commence aujourd'hui. Hein, donc, on va y avoir droit pendant quelques semaines. Et,
yep.
Et si vous êtes totalement irrité par les enfantillages des uns et des autres, sachez que vous n'êtes pas les seuls parce qu'il y a plusieurs juges qui ont fait montre de leur mécontentement de manière assez inhabituelle pour des juges dans des procès aussi aussi importants. Mais bon, donc Samsung dit que les designs d'Apple. En fait, je voulais commencer par Samsung. Peut-être que ça vaut le coup de commencer par Apple, parce que c'est eux qui ont commencé effectivement. Apple dit que Samsung a copié différents designs d'Apple, dont des designs sur lesquels ils ont des brevets. D'une part, il y a les designs physiques, c'est-à-dire la forme des objets, que ce soit l'iPhone, donc ça parle des téléphones de Samsung, la gamme Galaxy notamment. Le S3 n'est pas encore concerné, le tout dernier, donc le S3 n'est pas encore concerné, mais si Apple gagne son procès, il pourrait l'inclure dans les jugements. Et les tablettes de l'autre côté, donc ça c'est pour les questions matérielles, on parle vraiment de la forme de l'objet. Et de l'autre côté, il y a la question des brevets logiciels, c'est-à-dire la manière de présenter les informations qui sont à l'écran, comme le fait qu'il y ait un dock, donc une partie en bas qui ne bouge pas, en bas de l'écran avec certaines applications, et puis l'organisation des différentes des applications. Sur l'écran, c'est ce genre de choses dont on parle. Et donc, Apple a dit que Samsung avait intentionnellement copié ses designs, spécifiquement ses designs, dans le but d'introduire de la confusion chez les consommateurs pour que les consommateurs qui voulaient acheter des produits Apple achètent des produits Samsung. Si vous pensez que ça pousse le bouchon un peu loin, vous n'êtes pas les seuls. Mais d'un autre côté... il est un petit peu, ça interpelle un peu de voir les designs de Samsung avant et après l'iPhone. Et on parle de Samsung, il y en a d'autres aussi, hein, mais Samsung qui sont un petit peu plus similaires à l'iPhone que les autres. Ceci dit, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte. Pour le téléphone, c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais pour les tablettes, c'est le même problème que pour les télés. À partir d'un moment, quand on a un écran et un bord d'écran, il n'y a pas 40 000 manières de le faire non plus. Donc oui, ça ressemble à un iPad parce que toutes les tablettes ressemblent à un iPad. Il n'empêche, Apple demande 2,5 milliards de dédommagement. 0,5 milliard, donc 500 millions, on parle en dollars, hein, de profits perdus, c'est-à-dire de l'argent que Apple aurait gagné si Samsung n'avait pas vendu ces produits-là, parce que Apple aurait vendu ses produits à la place, et 2 milliards pour ce qui s'appelle unjust enrichment, donc enrichissement injuste. C'est donc les produits qu'a vendu Samsung en copiant Apple, qu'ils n'auraient pas vendu s'ils n'avaient pas copié Apple, puisqu'ils ont profité des technologies et des designs d'Apple. Ok. Jusque-là, tout le monde me suit ? Très bien.
Ouais.
ce que veut Samsung. Alors, je vais continuer sur Apple un tout petit peu pour dire que, selon Apple, Google a prévenu Samsung de ne pas copier Apple. Et c'est intéressant parce qu'ils ont une note de Google qui dit, sur un commentaire sur les produits Samsung, qui dit « ça ressemble trop à des produits Apple, il faudrait les changer un peu ». J'imagine que Google ne parlait bien sûr pas de brevets et de design pour le principe du design, mais pour dire « il faut introduire une différence pour bah, simplement se différencier sur le marché ». Autre chose, Apple a dit, et ça semble avéré, même s'il faut être très prudent, que Samsung a détruit des documents suspects, même après le début du procès. Donc, c'était pas juste des vieux documents, c'est des emails, et bon, les emails, évidemment, on peut les garder quand même un certain temps, hein, c'est électronique, et aurait détruit des documents suspects, même après le début du procès, dans le but de détruire des informations qui auraient pu aider Apple. Et cette information a été presque avérée, je disais, puisqu'il semblerait que les juges aient autorisé à Apple le fait de présenter cette information, donc simplement le fait de présenter cette information au jury, donc le fait que Samsung ait détruit ces documents suspects. Ensuite, au jury d'estimer si, oui ou non, c'était des documents qui pouvaient avoir un rapport avec le procès spécifiquement. Personne ne le saura jamais puisqu'ils ont été détruits. De l'autre côté, donc, les fanboys d'Apple vont pouvoir commencer à grogner et les anti vont pouvoir applaudir du côté de Samsung. Ce que veut prouver Samsung. D'une part, que ce type de design existait depuis bien longtemps. D'une part, chez Samsung, bien sûr, puisqu'ils font des téléphones depuis très très longtemps et certains téléphones étaient déjà simplement un écran avec un ou deux boutons ou trois boutons. Bon. Il faut avouer que les appareils en question, ceux qui étaient développés au début des années, enfin au milieu des années 2000, étaient un peu différents de l'iPhone parce que c'était pas les mêmes systèmes d'exploitation, c'était pas la même philosophie de design. Effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. On peut voir l'influence de l'iPhone, mais d'un autre côté, il est évident que Samsung se dirigeait effectivement vers des appareils avec un écran simplement qui occupait toute la surface et qu'il n'est pas du tout impossible que ce design ait évolué de lui-même sans l'aide d'Apple vers le type de design qu'on a aujourd'hui. Donc ça serait des designs naturels. En plus de ça, il y a des designs de Sony qui sont, enfin des anciens designs de Sony qui datent de 2006 ou des concepts qui datent de 2006, donc avant la présentation de l'iPhone, qui ressemblent très fortement à ces designs-là. Donc, l'argument de Samsung devient que ce que Apple aurait copié Sony, puisqu'ils avaient des relations, Johnny Ive, le designer d'Apple, et certains designers de Sony avaient des relations, et ils auraient eu connaissance de ces designs-là de Sony, et comme ils ressemblent même physiquement au design de l'iPhone, ils auraient fait des choix qui venaient de l'ambiance générale des designs de cette époque et qui ne sont pas donc simplement attribuables à Apple à 100%. Cet argument est tout à fait raisonnable aussi. En plus de ça, Apple utiliserait trois brevets essentiels, ce qu'on appelle des brevets essentiels, sont des brevets qui sont indispensables pour la conception de certains appareils, en l'occurrence de téléphones. Donc Apple utiliserait trois brevets essentiels de Samsung sur la 3G, sans les payer, alors que tous les autres constructeurs de téléphones mobiles payent Samsung pour ses brevets. Samsung réclame 2,5% du prix de l'iPhone pour ses brevets. Apple dit deux choses. D'une part, nos technologies sur la 3G sont différents de ceux qu'a développé Samsung, donc les brevets en question ne s'appliquent pas à nos appareils. Et d'autre part, ce chiffre de 2,5% n'a aucun sens. Ils ont sorti ce chiffre de leur derrière, et là, même Samsung n'a pas expliqué comment ils étaient arrivés à ce chiffre, et ça représenterait environ $14 par appareil, ce qui est plus que l'ensemble de l'antenne et de la technologie 3G dans l'appareil. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais en attendant, Samsung a passé des accords avec tous les autres constructeurs et il leur paye les brevets pour ça. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Deux autres informations intéressantes. Contre les 2,5 milliards que réclame Apple, Samsung propose de payer si jamais, ils sont obligés de dire, si jamais effectivement ces brevets ont été, nous devons payer quelque chose à Apple, nous paierons $28,000. Donc entre 2,5 milliards et 28 000, c'est pire que les chiffres de la police et des manifestants pendant les manifestations.
Il y a quand même quelques ordres de magnitude de différence.
Un tout petit peu, ouais. Et d'autre part, Apple, pour ces brevets essentiels qu'ils devraient payer à Samsung, si jamais il s'avère que ils doivent les payer, ils accepteraient de payer 0,5 cents, même pas 0,5 dollars, hein, 0,5 cents par brevet essentiel, au lieu de 1,5 cents pour les trois, au lieu de $14 à peu près pour les trois. Là aussi, il y a quelques sortes de magnitude de différence. Je regarde si j'oublie quelque chose. Je ne crois pas. Deux dernières choses. Ils se disputent même pour savoir à quelle place il devrait s'asseoir dans le tribunal. Parce que, bon, c'est pas juste à quel soir on va s'asseoir, à quelle place on va s'asseoir, mais il y a la question du défendant et du, je sais plus comment ça s'appelle en français, du plaintif, défendant et de l'accusateur, enfin bon, celui qui a déposé la plainte et celui qui se défend. Évidemment, chacun a sa place dans le tribunal. Et comme chacune des deux sociétés estime être, avoir une plainte à déposer, on sait pas qui va s'asseoir où, évidemment.
Ils veulent tous les deux ta gauche.
C'est ça, exactement.
Regardant, enfin, quand tu es face au juge, enfin, si tu regardes le juge, t'es à droite si tu es l'attaquant et tu es à gauche si tu es le plaintif.
Donc, bien sûr.
Le défendant.
C'est une chose qui peut avoir une petite influence. Là, on pinaille, mais dans ce procès, c'est pas, on n'en est pas à ce détail-là pour le pinaillage. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'une des décisions en Angleterre du même procès, qui serait que Apple serait obligé de parler de Samsung sur le site d'Apple pour dire qu'ils n'ont pas copié le design d'Apple. Donc faire de la pub pour Samsung en disant non, Samsung n'a pas copié Apple, contrairement à ce que nous avons dit partout. Mais cette décision a été un petit peu décalée parce qu'ils n'ont pas à le faire jusqu'à ce que l'appel soit jugé. Mais la première décision du tribunal en question en Angleterre était Samsung n'a pas copié Apple. Attention, c'était amusant parce que le juge a dit Samsung n'a effectivement pas copié Apple. Il est évident en regardant les deux machines que la machine de Samsung est beaucoup moins cool que la machine d'Apple. Donc évidemment, ils n'ont pas copié. C'était quand même comique. Bon, je crois que j'ai résumé à peu près tout. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à venir me le dire sur le blog de l'émission.
Non, je pense que là, tous ceux qui sont encore là, qui n'ont pas fait un fast forward, ils se sont pendus. D'accord, parce que là, c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est ce qui se passe en fait quand t'as deux géants de l'industrie, un avec 117 milliards de dollars en cash et le deuxième qui est un peu plus pauvre, qui en a une vingtaine, commence à se batailler dans les différentes juridictions pour des problèmes de patents, de design, de machin. Et je sais pas quel budget qu'ils ont mis de côté pour payer les avocats respectifs dans les différents pays, mais ça va monter, quoi.
Ah bah c'est certain, oui. Mais les montants de réparation sont tellement énormes que de toute façon ils peuvent payer des armées d'avocats, c'est certain.
Oui, et puis de toute façon c'est pas uniquement une question de qu'est-ce que Apple peut récupérer ou qu'est-ce que Samsung peut récupérer, c'est essayer en fait de limiter ou de ralentir le développement des nouveaux produits, parce qu'il y a eu plein d'injonctions à tenter de côté pour essayer de pas distribuer les produits, les machins, les trucs. Et donc, si Apple réussit à ralentir Samsung, ça veut dire que l'hégémonie de l'iPhone et de l'iPad peut continuer, quoi.
Bien sûr, c'est un outil commercial aussi. Et puis, la chose qui se cache derrière, on l'a pas mentionné, et c'est marrant, c'est l'éléphant dans la conversation de ce procès, c'est Google. Puisque, bien sûr, Apple fait un procès à Samsung spécifiquement, mais c'est un petit peu Android qu'ils attaquent par ce biais. Donc, Samsung est de loin le plus gros vendeur de téléphones Android du marché. Mais si jamais Apple gagnait ces procès-là... il n'est pas impossible qu'il se retourne vers d'autres fabricants Android et pourquoi pas vers Android tout court.
Ça crée un précédent.
Et c'est sûr.
Comme à chaque fois, tu vas essayer d'attaquer soit le plus gros, soit le plus faible, de manière à avoir un précédent en justice. Et puis après, tu vas continuer à attaquer les différents constructeurs les uns après les autres pour essayer de faire ton cas, quoi.
Ouais, c'est sûr. J'aimerais aussi préciser que effectivement, il y a des questions un petit peu ridicules qui se jouent dans ces procès. On a un peu l'impression que c'est des enfantillages. Ou, au mieux, on a l'impression que ces procès sont basés sur des questions qui sont pas obsolètes, mais qui sont mal posées. Et on retombe forcément sur la question des brevets et de la validité des brevets. Parce que une partie de ces brevets ont certainement été accordés, mais le brevet sur la disposition des icônes ou la forme d'un appareil, oui, si on a une forme super précise, pourquoi pas, mais la forme générale, il est clair qu'un Galaxy S2, par exemple, si tu mets les deux l'un en face de l'autre, de face, ça peut peut-être ressembler un peu, mais il y a plein d'autres téléphones qui ressemblent. C'est pas exactement la même forme. On arrive à des points où... Eh ben, un écran de verre, c'est un écran de verre. Donc, est-ce que le vrai problème, c'est pas le problème des brevets qui sont accordés ou pas ? Et est-ce qu'on n'est pas en train de... Bon, c'est un problème dont on parle souvent, pour le coup, dans l'émission. Est-ce que les brevets ne sont pas le cœur de ce problème et la raison pour laquelle on a toutes ces choses qui sont un peu ridicules ? Après, les sociétés essayent de se défendre en fonction des droits qu'on leur a accordés. Ça, c'est normal. Là encore, on vient à la question, est-ce que c'est les sociétés qui font condamner ? Un petit peu, oui, sans doute, parce que c'est des enfantillages ou ça ressemble à des enfantillages. Mais est-ce que c'est pas plutôt les questions de loi qu'il faut revoir ?
Le problème, c'est que tu as tellement de... à la fois de juridiction et de problèmes autour des patentes, des machins, des trucs, essayer de remettre tout à plat, ce sera nécessaire, mais ce sera un véritable cauchemar. Puisque tu vois aujourd'hui, que ce soit les patent trolls, donc les gens qui récupèrent quelques patentes et après qui clament, j'ai inventé Internet, j'ai inventé l'hyperlink, j'ai inventé ceci. Et le problème, c'est que tu te fais attaquer de droite et de gauche, typiquement si tu as du cash, mais ça nous arrive de temps en temps d'avoir un crétin qui va frapper à notre porte en disant « mais attends, j'ai une patente là-dessus, tu me files du fric, quoi. »
Et dans ce genre de cas, il n'y a pas d'autre choix que de faire un procès ou...
Tu vas essayer de te défendre, mais malheureusement, souvent les patent trolls sont bien, ont levé de l'argent eux-mêmes et sont bien fondés, et ça coûte très cher d'essayer de te défendre, surtout si tu vas au procès, parce que ce sont des procès qui sont extrêmement longs, très techniques, qui nécessitent des phases de discovery, donc où chacun va essayer de trouver ce que l'autre dans ses archives, dans ses emails et tout, et donc ça peut coûter ça va coûter des millions de dollars de défendre quelque chose, et tu peux jamais récupérer cet argent. Et donc typiquement, tu essaies de voir comment tu vas settle. Donc tu vas payer des licences parce que t'as pas les moyens en fait de te défendre.
Oui, donc filer un petit peu d'argent qui coûtera de toute façon moins cher qu'un procès, même si tu le gagnes.
Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment c'est du piratage, enfin c'est comme les pirates dans les anciens temps où en gros tu te faisais rançonner pour passer les détroits de Scie ou pour utiliser les routes maritimes, c'est la même chose quoi. Ouais. C'est bon. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Bon, en tout cas, s'il y a une chose qui va rendre ce procès-là extrêmement intéressant, ça va être les conséquences, puisque une fois que la loi aura dit son dernier mot, les choses risquent d'avoir des conséquences sur énormément de produits qu'on utilise tous les jours. Et puis ça décidera finalement dans notre société, c'est comme ça qu'on décide qui a raison ou qui a tort. Donc si jamais le tribunal décide que Apple a gagné, eh ben c'est Apple qui avait raison et Samsung a effectivement contrevenu à leur brevet. Si le tribunal décide que Samsung a gagné, eh ben c'est Samsung qui a raison légalement et d'une certaine manière moralement, parce que c'est comme ça que fonctionne notre société. Bah Samsung aura eu raison et ils n'auront pas fraudé avec les designs d'Apple. C'est quelque chose d'intéressant, en tout cas, à suivre. Et quand la justice aura donné son dernier mot, j'imagine que ça va prendre très, très, très longtemps, parce qu'il y aura bien sûr des appels, des contre-appels, des machins, des trucs. On n'est pas encore au bout.
Oui, ça va prendre des années et des années. Si tu te rappelles, en fait, du procès Unix, Linux, Linux, machin, enfin, ça a duré des années jusqu'à ce que la boîte, en fait, fasse faillite, quoi, et ne soit plus capable de payer quoi que ce soit.
Ouais. Bon, eh ben écoutez, on va passer à notre deuxième partie, donc la partie news et rumeurs. Avant ça, je vais tout de même vous parler de nos deux sponsors. Et le premier, qui est un sponsor, comme je le disais la dernière fois, qui me fait extrêmement plaisir, c'est Squarespace. Vous connaissez peut-être Squarespace si vous êtes amateur de podcasts anglophones. C'est un service de blogging tout intégré qui sponsorise plusieurs émissions anglophones et qui est d'une qualité. C'est le genre de sponsor qui fait vraiment, vraiment plaisir, parce que c'est des sponsors qu'on apprécie et qu'on recommanderait de toute façon. Imaginez, vous voulez faire un site, vous vous dites « j'ai pas trop de connaissances sur le web, je sais pas trop par où commencer, par où m'y prendre. Il y a d'autres services, bon, qui sont comme ci, comme ça. Squarespace est un service non seulement tout intégré, donc vous pouvez construire, concevoir votre site et héberger votre site, et en plus avoir un nom de domaine, mais en plus c'est un service extrêmement simple d'utilisation. Tout est visuel, c'est-à-dire que vous allez décider avec des modèles préexistants, je veux une barre sur le côté, une barre à droite, un modèle en plusieurs parties, ici, là et là. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi les déplacer avec un clic de souris et réorganiser votre site, redesigner votre site de manière complètement visuelle. Si vous êtes un petit peu plus un warrior, vous pouvez aussi rentrer les doigts dans le cambouis et changer le HTML, le CSS et tout ça. Mais si vous êtes un débutant, vous pouvez entièrement concevoir votre site de manière totalement intuitive. Là où c'est également intéressant, c'est que les sites Squarespace donc vous hébergent également. Ils vous permettent d'importer et d'exporter vos données. Donc si vous avez déjà un site quelque part, vous pouvez l'importer facilement et vous pouvez ensuite le réexporter si vous décidez de ne plus utiliser Squarespace. Si vous choisissez un abonnement d'un an, vous pouvez donc, comme je le disais, avoir un nom de domaine inclus dans votre abonnement, et là encore vous restez propriétaire de votre nom de domaine. Ça, c'est quelque chose de très important. Ils ne le gardent pas, eux, c'est vous qui l'avez. Et enfin, les tarifs sont extrêmement raisonnables. Quand on prend en compte que tout est intégré, franchement, pour un site complet, non seulement ça peut être intéressant pour des personnes individuelles qui veulent concevoir un site ou avoir un site pour eux ou pour une idée qu'ils ont eue, pour une petite animation, un truc comme ça, mais ça peut être aussi intéressant pour des petits commerces, par exemple. Il y avait un designer qui était venu sur les commentaires de la dernière émission qu'on avait fait pour dire « Oui, quand même, c'est pas bien de dire que ce type de service peut remplacer un vrai web designer. » Alors, d'une part, c'est cet aspect est discutable, mais surtout pour les tarifs de Squarespace qui sont de l'ordre de quelques dollars par mois, franchement, c'est pas du tout le même type de service. Jamais un petit commerce va se dire « je vais aller payer plusieurs milliers d'euros, voire plus, à une société ou même un web designer pour qu'il me conçoive mon site ». Là, vous pouvez le faire vous-même simplement et efficacement. C'est d'autant plus important pour nous que Squarespace est en train de considérer son arrivée en France. Et vous pouvez les convaincre en allant essayer le service Squarespace gratuitement pendant 2 semaines. Vous n'avez même pas besoin de rentrer votre numéro de carte bleue ou d'autres informations personnelles. Vous allez sur Squarespace et vous créez votre site en 2 secondes. Il est gratuit pendant 2 semaines. Si vous voulez nous filer un petit coup de main, passez par nowatch.squarespace.com et vous cliquez sur la bannière du site en question. C'est notre journal de bord de Comic-Con, sur lequel vous verrez d'ailleurs d'autres choses extrêmement intéressantes. Donc vous allez sur nowatch.squarespace.com, il y a aussi une bannière sur notre site nowatch.net, et vous testez la chose, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Moi, je pense que ça vous plaira. Deuxième sponsor sur lequel on passe un tout petit peu plus rapidement, c'est la boutique No Watch, ou plus précisément le fan shop No Watch. Vous le savez, ce sont des produits qui sont entièrement emballés et conçus par No Watch. Je dis emballés parce que, comme on le dit souvent, il y a de la sueur de podcasteurs dedans. C'est nous-mêmes qui gérons toute la boutique. Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup plus de bénéfices de cette vente de produits. Donc, c'est un gros coup de main pour nous, beaucoup plus que l'ancienne boutique. Et en plus, les produits sont de très bonne qualité. On vous en a déjà parlé. Je vous dirais juste qu'il y a des nouveaux t-shirts qui sont disponibles. Ils sont arrivés avec notre présence à la Comic-Con, mais vous pouvez aussi les acquérir par la boutique No Watch sur le site. Donc vous allez sur nowatch.net, il y a un lien boutique, ou alors nowatch.net/fanshop, et vous verrez, ces t-shirts valent le coup. Et ben, on va donc continuer avec la suite de l'émission et les news et rumeurs, qui sont la partie où on passe un petit peu plus rapidement sur les différentes informations intéressantes de ces 2 dernières semaines. Je vais commencer avec la Internet Defense League. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la Internet Defense League, Jeff?
Non, mais j'aime bien le t-shirt Kill Your TV Now. Donc, c'est vrai qu'ils sont sympas.
Merci. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Nowatch.net/fanshop. Donc, la Internet Defense League, c'est pas la nouvelle équipe de Batman, mais presque. En fait, c'est plusieurs organisations de défense d'Internet qui sont regroupés. Il y a notamment Mozilla, les concepteurs de Firefox, l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, voilà, Reddit, WordPress, etc., qui se sont dit, il nous faut un moyen d'alerter les masses quand il y a un problème comme SOPA, PIPA et ces lois liberticides sur Internet. Il nous faut un moyen simple de signaler aux gens que maintenant, c'est le moment d'agir. Et ni une ni deux, ils ont formé cette Internet Defense League qui va envoyer un signal dans le ciel et sur les internets. C'est marrant, il y a un petit signal dans leur communication, une sorte de lolcat, enfin de petit chat mignon sur un projecteur.
Une bad cat.
Voilà, c'est un petit peu ça, le projecteur dans le ciel, qui est un petit chat, pour signaler aux gens qu'il faut agir. Et évidemment, c'est extrêmement intéressant parce que il y a de plus en plus de lois comme ça, ou des moments où on peut agir, où on ne sait pas trop qui appelle, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est important, est-ce que les gens vont pas finir par se fatiguer à force de... oui, il y a mon téléphone qui sonne, c'est l'Internet Defense League. L'Internet Defense League m'appelle. Bon, je ne réponds pas. Désolé, je suis en train de défendre l'internet sur un podcast.
C'est parce que t'as pas été plus de prononcer IFF correctement et donc exactement. T'envoies leur lawyers.
Oui, c'est ça. Donc, on a un signal unifié. C'est une super bonne idée. Et comme l'ont prouvé les actions unies des gens, des vrais gens sur Internet, on peut aider à la compréhension de ces lois par les politiques en communiquant. Avec SOPA, ça a été le cas. Et on pense qu'on peut réitérer l'exploit. Si on a un signal clair, ils nous le fourniront. À propos de changer d'influencer les politiques, la Commission européenne crée une consultation, a demandé à faire une consultation générale sur la neutralité du net. Et ils ont demandé à tout le monde, consultation ouverte à tout le monde pour avoir des avis sur la neutralité du net. Bien sûr, ça concerne principalement les sociétés ou les associations, mais n'importe qui peut aller donner son avis, même les simples utilisateurs, les simples citoyens. Cette consultation est ouverte jusqu'au 15 octobre, c'est sur le site de l'Union européenne. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission, là encore. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes un expert ou simplement un citoyen préoccupé et actif, vous pourrez faire ça. Et c'est même important que beaucoup de gens le fassent. Beaucoup d'associations, bien sûr, j'imagine qu'elles vont le faire, mais peut-être des gens aussi. Autre info, tu m'arrêtes hein, quand tu as des choses à dire, Jeff. Autre info extrêmement importante, Twitter a passé la barre des 500 millions d'utilisateurs. C'est monumental. Franchement, moi, je trouve ça à peine croyable. Ils étaient à, je sais plus, 140 ou 150 millions il y a un an. Les derniers chiffres qu'on avait, en tout cas, je crois que c'était ceux-là. Et ils sont à 500 millions. Il faut savoir que Facebook est à peu près à 900 millions. Et c'est de très, très loin le plus gros réseau social. Twitter est évidemment un énorme réseau social, on le savait. Mais 500 millions, je pensais pas qu'ils étaient aussi hauts. Ça devient... c'est une personne sur 10 dans le monde, quoi. Donc, ça veut dire vraiment, dans les pays... riche entre guillemets, tout le monde a son compte Twitter et évidemment dans les autres pays aussi.
Ouais, et je pense que il y a deux choses. Un, tu peux pas regarder les Jeux Olympiques ou n'importe quel programme de télé sans avoir l'interaction sur Twitter, suivez-nous sur Twitter, etc. La grosse question pour moi, c'est c'est super, 500 millions d'utilisateurs, c'est gigantissime. Comme
mais comment
disais,
on fait des sous
la question. Non. Ah, c'est la question, c'est quel est le niveau d'engagement de ces 500 millions, c'est-à-dire combien de ces 500 millions vont visiter le site chaque semaine, chaque mois, combien de ces 500 millions vont poster effectivement régulièrement, et c'est là où en fait tu vois la courbe de participation qui est différente de celle de Facebook à mon sens, puisque Facebook aujourd'hui a à peu près 500 millions d'utilisateurs qui visitent le site chaque jour. Ce qui est énorme, ouais. Ce qui veut dire que plus de 60% de leurs utilisateurs ont une interaction chaque jour, c'est gigantissime. Et Twitter, je pense, a un niveau d'engagement qui est différent. Ça ne veut pas dire que c'est pas une boîte très qui a énormément de valeur. La question, c'est effectivement, comme tu l'as dit, en blaguant, c'est quel est le modèle qui permet à Twitter de faire 10 milliards de dollars de revenus. Et c'est là où c'est pas très clair, puisque bon, je sais où ils étaient il y a un an et demi. Ils ont fait, j'espère pour eux, des progrès. Et donc il y a ce souci qui est bon, est-ce que Twitter peut effectivement rejoindre Facebook dans la ligue des multimilliards, enfin multimilliards en revenus à un moment ou à un autre, sachant que la question à se poser, parce que c'est le dernier des grands à ne pas être public. On voit aujourd'hui que Groupon, Facebook s'en prennent plein la tronche dans les marchés publics, donc il faut que Twitter ait une réelle réponse, parce que c'est pas avec une entourloupe qu'ils s'en sortiront. Si tu as vu ce week-end, il y avait une rumeur comme quoi Apple s'intéressait à prendre une participation dans Twitter, en les valorisant à peu près. Non, il y a ce week-end dernier là.
Oui, mais c'était des discussions qu'ils avaient eues il y a un an et qui, enfin, ce dont ils parlaient, c'est des discussions qui étaient vieilles d'un an déjà.
Ah d'accord, ok, j'avais pas vu ça. Ouais. Et donc, ce qui à mon sens n'aurait pas de sens, mais bon, bref. Et donc,
je sais pas, c'est des rumeurs de toute façon.
Il y a toujours quelque chose derrière la rumeur, on le
oui,
sait bien.
C'est sûr.
Et donc la grosse question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à avoir une assise financière en tant que business et non pas en tant que communauté. Parce qu'en tant que communauté, c'est incroyable. Je veux dire, je suivais ce week-end les Jeux Olympiques sur la télévision américaine, et pour une fois, les télés américaines ont fait un boulot raisonnable. Bon, beaucoup de gens en fait reprochent à NBC de faire du différé, c'est-à-dire que si tu veux suivre le vrai temps réel, il faut aller taper dans les flux de la BBC One en pirate. Ouais. Mais NBC fait à peu près un boulot raisonnable. Et effectivement, t'as du Twitter partout, quoi. C'est incroyable.
Ouais, c'est sûr. Mais effectivement, il y a cette question entre les comptes tout court et les comptes actifs, qui est une question très importante. Pour info, les US sont numéro 1 sur Twitter avec 140 millions de comptes. En France, on est 18e, avec quand même 6 ou 8 millions de comptes. Hein. Ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur 10 en France qui a un compte Twitter. C'est pas mal. Bon. Info suivante, on va passer très rapidement sur les résultats financiers de ce trimestre. Microsoft a fait les beaucoup de bruit parce que c'est le premier trimestre de leur histoire où ils ont perdu de l'argent. Mais là encore, beaucoup de gens n'ont pas été chercher plus loin. Il se trouve qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'ils ont fait une opération comptable qui faisait passer sur ce trimestre une mauvaise acquisition, donc c'est sûr que c'était pas bien, de, je crois, 2006. Mais si on enlève cette mauvaise acquisition qui est passée sur ce trimestre, ils ont quand même fait de l'argent. Donc ouais, bon,
ils ont fait un write-off de 6 milliards. Bon,
voilà, c'est ça. C'est quand même pas rien, 6 milliards, et si on enlève ces 6 milliards, ils ont gagné de l'argent. Donc bon, bref. Et avec les 6 milliards, ils en ont pas perdu énormément non plus. Donc bon. Autre chose dans l'autre sens, enfin pas vraiment, Apple, dont on a dit ils ont déçu les analystes qui avaient fait des prévisions plus élevées que les résultats effectifs d'Apple, sauf que, comme toujours bien sûr, Apple a fait des résultats plus élevés que les prévisions internes qu'ils avaient communiquées au public, bien sûr. Ils font toujours la chose, hein. Ils font des prévisions, eux, qui sont un petit peu sous-évaluées pour pouvoir exploser les chiffres. Mais accessoirement, ils ont quand même vendu plus d'iPad dans ce trimestre que dans toute leur histoire, y compris les trimestres de Noël. Bon, évidemment, l'iPad 3, le nouvel iPad venait de sortir, donc c'est compréhensible aussi. Mais bref, Apple va très bien. Je pense que Apple et Microsoft, on n'a pas vraiment à s'inquiéter pour eux. Donc bon, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le sujet, on va clore la partie résultats.
Non, c'est vrai que Apple a déçu, enfin je veux dire déçu, quand tu vois un peu le nombre de devices qu'ils ont vendus, c'est pas juste parce que les analystes avaient prévu X et que Apple a délivré Y. C'est intéressant de voir que Apple va payer son premier dividende, bon, avec 117 milliards en cash, on va pas les blâmer. Ouais. Donc en tant que Apple shareholder depuis longtemps, bah ce sera bien d'avoir un peu de sous de leur part. Je pense que ça va être intéressant de voir comment l'iPhone 5 se profile. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de complètement différent, de véritablement disruptif, tel que c'était attendu au moment où ils ont sorti l'iPhone 4S. Et on va voir si réellement avec l'iPhone 5 ils peuvent reprendre le dessus avec une croissance monstrueuse, ou si en fait il y aura un petit essoufflement du de la chaîne hein, continue des upgrades quasi obligatoires pour les fans d'Apple quoi.
Moi je crois que ouais, moi je crois que l'iPhone 5 ne sera pas du tout n'aura rien de révolutionnaire mais qui va quand même se vendre comme des petits pains. Hein. C'est enfin bon, on verra.
On verra.
Deux dernières news. Bon, on va passer un petit peu sur macOS Mountain Lion qui marche bien sauf pour Patrick. Il y a des questions sur l'App Store et certaines personnes qui disent que l'App Store est désormais trop restrictif sur macOS, donc ça va provoquer la mort de macOS. À mon avis, c'est Marco qui est un très bon développeur, mais qui commence à être un petit peu trop, qui voit les choses un petit peu trop du côté développeur. C'est vrai qu'il y a des choses comme le sandboxing, l'absence de mise à jour payante, ce genre de choses qui sont des problèmes sur le Mac App Store. À mon avis, il risque de résoudre certains de ces problèmes, comme les mises à jour payantes par exemple, mais le sandboxing qui permet aux applications de sortir de leur application et donc de parler avec le reste du système, ça ils vont pas revenir dessus et ça ne va pas rendre le macOS, enfin le Mac App Store obsolète. Et l'autre chose c'est les détails sur le Windows 8 Store. Les apps pourront aller de 1,49 à 999 dollars et les parts de Microsoft, la part de Microsoft sera de 30% pour les 25 premiers 1000 dollars, les 25 000 premiers dollars plutôt, et de 20% au-delà. Donc bon, c'est pour un magasin, le Windows 8 Store qui sera pour les tablettes, bien sûr Windows 8 et les ordinateurs. 1,49 $, ça sera sans doute 1,29 €, j'imagine quelque chose comme ça, jusqu'à 999 dollars. Bon, c'est raisonnable. Et puis cette structure, 30% pour les 25 000 premiers dollars et 20% au-delà, c'est raisonnable aussi. Ça devrait donner quelque chose d'intéressant sur Windows. Et on va conclure. Je voulais parler de la question de la controverse sur les Jeux Olympiques qui amènent l'univers du cyberpunk. Lionel Morel, qui est un blogueur, a écrit un article assez intéressant sur le sujet, mais qui va, à mon avis, qui fait un petit peu l'apocalypse avant l'apocalypse. Il soulève des questions intéressantes parce que c'est vrai que le comité olympique va quand même très très loin dans la protection des droits et des mots. Ils font des choses comme, par exemple, ils ont fait voter le Olympique Game Act, qui fait qu'on ne peut pas utiliser deux mots d'une certaine liste ensemble, genre Olympique 2012, Jeux et certaines choses du genre. On ne peut pas utiliser ces deux mots ensemble dans une même phrase sur les médias. Ça va très très loin. Le comité olympique est clairement détesté par une grosse partie de la blogosphère et d'Internet parce qu'il pousse le bouchon très très loin. En même temps, les droits se payent extrêmement cher, donc ils veulent les protéger. C'est sûr que ça paraît ridicule d'interdire les tweets, mais si on commence à autoriser, pardon, les tweets, il y a des services de diffusion en live de n'importe quel téléphone, donc ils tapent à fond pour éviter que ce genre de truc n'arrive aussi. Mais bon. De là à dire c'est le cyberpunk et le règne des sociétés qui se substituent aux États, je crois que c'est un petit peu exagéré, mais bon. L'article a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers temps et je voulais en parler un tout petit peu.
Ouais, le problème c'est que d'un côté tu vois un peu les montants des investissements faits par les chaînes de médias, que ce soit donc la télé, la radio, etc., pour retransmettre les Jeux Olympiques. Je veux dire, c'est des milliards de dollars in fine qui changent de main. Et ils ont besoin, eux, de vendre l'événement à leur audience, que ce soit au travers de souscriptions, que ce soit au travers de la pub. Moi je te disais, je note que cette année, je trouve que grosso modo, on a une pas mal de, enfin le programme, la programmation américaine des Jeux Olympiques est vraiment pas mal faite. Y a même la possibilité sur NBCOlympics.com de suivre énormément des jeux en temps réel sur ton téléphone ou sur ton iPad, et sur une liaison 4G ça marche vraiment bien. L'autre jour j'attendais que mes pneus soient changés chez Costco et en gros je regardais un match de basketball sur mon iPhone et c'est seulement cette année que tu vois le côté multimédia, multi-device vraiment très bien fait, quoi. Et ça, ouais, c'est pas gratuit. Donc, bon. tu vois.
Ouais. Ils protègent aussi leurs investissements, c'est normal. En France, c'est le cas aussi. On a une application France TV Sport ou un truc comme ça, France 2 Sport, je ne sais plus, qui effectivement te permet de faire la même chose. Je crois hein, que ça permet de regarder. Moi, j'avoue que je ne suis pas le plus grand fan des Jeux Olympiques, donc ce n'est pas le truc sur lequel je me suis penché. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que le comité olympique pousse le bouchon un peu. Il y aurait peut-être un juste milieu à trouver, on va dire.
Non, c'est pas faux. Mais comme d'habitude, ouais. Comme personne ne veut payer quoi que ce soit, in fine, ouais. tu dois vendre les droits de façon exclusive. Les acquéreurs des droits vont mettre de la pub, les annonceurs. Enfin, je veux dire, quand la cérémonie d'ouverture a été retransmise à prime time, donc à 7h30 du soir, temps des US, et où tu pouvais pas y accéder. Dans la journée, au moment où ça se déroulait, on a dû hacker sur un site de la BBC pour le récupérer. C'était vrai parce que on était tous chez AOL, donc je suis dans un building d'AOL, ouais. Et il y a Gus qui avait hacké le feed et qui le retransmettait pour tout le monde, quoi. Donc, non, je l'ai pas dit. Et donc, c'est assez rigolo. Et même, je crois, c'est Benioff qui a même pointé sur un autre feed. Hacké parce qu'il disait oh, c'est génial, j'ai vu Tim Berners-Lee pendant la cérémonie et paf, ouais. il te colle une URL d'un feed pirate quoi dans le patron de sa source.com. Donc bon, in fine, d'un côté je comprends très bien la problématique économique, de l'autre dans un monde de temps réel, tout ça c'est un peu ridicule quoi.
C'est sûr. Bon, c'est sûr, disons que effectivement si on est le patron d'une chaîne qui a déboursé 150 millions pour avoir je dis des chiffres au hasard hein, mais 150 millions pour
ça.
Avoir
je suis sûr que c'est plus que ça. Je sais regarder combien je peux retrouver le montant, mais je suis sûr que c'est des centaines de millions.
Bon, quelques centaines de millions pour avoir les droits de retransmettre les jeux. Il est évident que tu attends que le comité qui organise ces jeux se démerde pour qu'ils soient pas diffusés partout ailleurs en même temps. Donc, bon, il y a effectivement un juste milieu à trouver sans doute. Bon.
Holy crap. NBC paid. Je suis en train de lire un article qui dit NBC paid 3.5 billions.
Ouf.
For the right.
3,5 milliards.
Et j'ai une pub qui arrive juste au moment où je suis en train de saloperie.
Oui, bah effectivement, si c'est 3,5 milliards, on peut comprendre qu'ils aient envie de protéger leur truc. Hein.
So NBC paid 3.5 billion for the rights to the five Olympics between 2000 and 2008, 2 billion for Vancouver and London Games, and a hopping 4.38 for four Olympics between 2014 and 2020. Donc ça veut dire, c'est, tu vois, ils ont flushed à peu près 10 milliards de dollars. Pour les Olympiques depuis entre 2000 et 2020.
Ouais, effectivement, ça met les choses en perspective. Donc, moi je dis ils auraient pu m'enfiler un petit peu. Hein. J'aurais pu faire.
Ah, je sais pas. Watch, les Olympiques sont un watch.
Voilà, par exemple. Bon, écoutez, c'est sur cette chouette conclusion qu'on va conclure. Pour vous dire que vous pouvez nous laisser un commentaire sur iTunes, parce que vous le savez, ça nous aide pas mal à gagner en visibilité sur le répertoire iTunes qui reste le meilleur moyen pour beaucoup de gens, ou le premier moyen en tout cas de découvrir des podcasts. Il y a aujourd'hui 1078 notes et quelques avis aussi, dont je vais lire les tout derniers. Jo7509, qui j'imagine s'appelle Joseph et vit dans le 9e arrondissement de Paris, nous dit « Instructif, avec 5 étoiles, j'en sors toujours enrichi. Merci à vous. » Merci à toi, Joseph. Si tu nous expliques comment tu t'enrichis en écoutant le Rendez-vous Tech, on est preneur. Ah, ok, intellectuellement, d'accord. Ok. Geekax dit « Le compromis parfait, toujours 5 étoiles. Un super podcast que je fais même écouter à mes parents. Il a tout compris, Geekax, bien joué. Sans prise de tête avec et sans prise de tête. » Fou, sans prise de tête avec un jargon inutile, on retrouve sur ce podcast l'essentiel de l'actualité high-tech, simplement, utilement, agréablement, ne rien changer. Et enfin, FloFlo012 nous dit « No Watch a débranché ma télé, 5 étoiles, un podcast passionnant, longue vie au Rendez-vous Tech, longue vie à No Watch ». Merci à ces trois utilisateurs d'iTunes qui nous ont laissé des commentaires, c'était les trois derniers qui étaient sur la page iTunes du Rendez-vous Tech. Donc vous pouvez faire de même et on vous en serait extrêmement reconnaissant. Comme le disait FloFlo012, il dit aussi « Longue vie à No Watch » puisque sur No Watch, vous pouvez trouver plein d'autres podcasts extrêmement intéressants aussi. Ne vous limitez pas à au Rendez-vous Tech. Je sais que cette émission est excellente et merveilleuse et que vous l'adorez, mais il y a aussi par exemple Will & Co, Season 1, Game in the Pocket, La Voix dans la Tête, enfin il y en a plein qui sont vachement bien, donc allez voir sur le site nowatch.net et tant que vous y êtes, passez sur l'article de cet épisode pour nous dire ce que vous en avez pensé et nous dire les bêtises qu'on a annoncées fièrement dans cet épisode. On vous en sera là aussi très reconnaissant.
Il y a plein d'animateurs de grands talents chez No Watch et ils ne prennent pas autant de vitamines que Patrick qui l'empêche de prononcer correctement Electronic Frontier Foundation.
Oui, c'est juste moi. Ça, c'est moi. Attends, Electronic Frontier Foundation.
Ah, yes,
well done. Bon, c'est au bout de la quatrième fois.
Juste une toute petite brève, ça vient juste de sortir. Donc, Ross Levinson quitte Yahoo. Donc, Marissa est maintenant toute seule à la tête de Yahoo. Et la première chose qu'elle a fait, une des premières choses qu'elle a fait, c'est que maintenant, les repas sont gratuits, comme chez Google.
Ouais.
Donc, on se retrouve tous à l'URL Café pour aller déjeuner aux frais de Yahoo.
Au frais de la princesse, pour le cas, c'est presque le cas. Oui, non, c'est vrai, et tout le monde, ça a provoqué chez tout le monde des commentaires du genre « Marissa Mayer a commencé la googlification de Yahoo et la première étape, c'était la bouffe gratuite ». C'est sympa quand même, ça met une bonne ambiance, je trouve. Moi, je trouve ça pas mal.
Bah, je pense que, c'est dommage, j'aurais bien aimé être sur le rendez-vous tech suivant donc son accession au poste de CEO, parce que c'est pas inintéressant en tout cas c'était un changement, c'était un move qui était pas du tout évident aussi bien pour Yahoo que pour Marissa. C'est quelqu'un qui est très très smart, c'est une énorme bosseuse. La question c'est est-ce que sa culture qui est vraiment très orientée produit fonctionnera dans une boîte qui est quand même assez fondamentalement du média. Donc je pense qu'effectivement c'est peut-être le premier pas vers la googlification de Yahoo, mais c'est pas le dernier, hein, ça c'est clair.
C'est possible, oui. Mais en même temps, Yahoo a aussi des produits. Bon, il y a Flickr qui est un petit peu tombé en désuétude, mais leur mail marche toujours très très bien. La recherche Yahoo était quelque chose il y a un moment. Peut-être qu'elle a des ressources.
Ils ont un énorme problème avec leur email, mais bon, ok.
Ouais. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, ils ont beaucoup d'abonnés. Email Yahoo, Yahoo Mail, c'est une énorme ressource aussi.
Tout à fait.
Donc peut-être qu'elle va transformer Yahoo Mail en une sorte de truc qui marche, c'est-à-dire Google Mail.
Mais... C'est vrai qu'ils ont énormément d'assets dans le mobile, dans l'internet web, machin, enfin le truc pur, etc. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que Yahoo ? C'est fondamentalement la réponse qu'elle doit apporter, c'est OK, Yahoo, c'est bla bla et bla, parce que ça fait 5, 6, 8 ans qu'on n'a pas une vision très claire de ce que c'est que Yahoo, et donc t'as un hodgepodge de produits qui sont plus ou moins bon, plus ou moins utilisé, avec plusieurs produits qui ont plus d'une centaine de millions d'utilisateurs, mais c'est pas clair aujourd'hui pourquoi tu devrais aller sur un site de Yahoo, quoi. Ça va être son challenge. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est bien en fait pour tout le monde d'avoir un Yahoo qui soit plus fort que ce qu'il a été sur les deux trois années. Et pour nous, en tant qu'investisseurs, ça fait un racheteur de plus. Donc on attend sa shopping list, quoi. On va voir ce que ça donne.
D'accord. Je suis sûr que tu reviendras nous en parler sur le rendez-vous tech à un moment. Et d'ici là, où est-ce que les internautes auditeurs peuvent entendre, peuvent venir chercher la sagesse que tu distilles sur Internet?
Ça, je sais pas trop, parce que je sais pas si c'est vraiment la sagesse, mais autrement, on peut me retrouver presque tous les jours sur @Jeff sur Twitter, et un peu de Google Plus ici, un peu de Facebook là. Mais en ce moment, je suis assez busy, donc je fais pas énormément de social media, je fais beaucoup de choses en interne chez Softech.
D'accord. Bon, on gardera quand même un œil sur twitter.com/Jeff dans tous les cas.
Genre, on fait 9 investissements le dernier trimestre, mais ça, on n'en parle pas encore.
Non, mais tu peux pas juste dire ça.
Bah si, j'ai dit le nombre, mais on peut pas vraiment parler des boîtes parce que elles ont pas été annoncées, tout ça. Mais en gros, on était au fond de la mine, on a fait 9 investissements, on a vendu 2 boîtes et tout se passe bien.
D'accord. Bon, on suivra l'actualité dans l'émission aussi. Pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez, ou Patrick Béja sur les autres réseaux sociaux que sur Twitter. Et bien sûr, on sera de retour dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Je dis dans 2 semaines, mais il faut que je regarde le calendrier parce qu'il se passe des choses en août. Peut-être que dans 2 semaines, je ne serai pas là. possible, pas sûr, je sais pas, on verra. Si jamais je ne suis pas là, ça sera le podcast pour lequel je n'ai pas été présent. Enfin, on verra, peut-être que je ferai un petit truc quand même en solo, je sais pas. On se débrouillera. Dans tous les cas, vous suivez le Rendez-vous Tech et on sera de retour dans 2 ou 4 semaines, c'est certain. Merci à tous d'avoir suivi l'émission et à très bientôt. Ciao, ciao.
Salut.
Bon, bah, je viens de regarder sur le site de Ambrosia et Wiretap Anywhere n'est pas compatible du tout avec Mountain Lion. Donc, c'est la merde. Mais ils disent qu'il sera recompatible bientôt.
Ça sera recompatible.
Recompatible. Ouais, ils annoncent que ça devrait revenir. J'espère que ça va revenir vite parce que sinon, c'est problématique pour moi.
Ah, parce que t'as pas un seul, tu peux faire un seul podcast. Hein. C'est pas un vieux Mac qui pourrait. Que tu pourrais ne pas upgrader parce que je pense pas que tu puisses enlever Mountain
non,
Lion.
Non, non, Mountain Lion, tu peux pas, mais non, j'ai pas vraiment de vieux Mac, je peux. Enfin, il faudrait que je trouve un autre système pour diffuser le. Ça serait peut-être possible, mais pour diffuser le live, je peux tout diffuser sauf le son. C'est quand même dommage pour un podcast audio.
Mais,
ouais. Bon, j'essaierai de trouver une solution. Ah, l'horreur.